Ce matin, je vais vous parler du lait et du miel. Sylvie, tantôt, elle a amené quasiment une parole de connaissance. Hein? Puis, il y a des tomates et des cocombes sur l'estrade. J'ai vu plusieurs venir vérifier, c'est très bien. Mais on arrive au temps des récoltes, puis là, on arrive au temps des récoltes, puis là, je suis en train de regarder mes tomates, mes zucchinis, mes cocombes cette année, toutes les erreurs que j'ai faites, puis mes bons coups. Puis là, tout d'un coup, j'ai vu quelques tomates qui avaient une certaine maladie. Je ne vous dirai pas le nom français, là, tu sais, ils pourrissent un petit peu en dessous, là. Mais ils appellent ça une nécrose apicole. Mais, hein, ça, c'est le terme scientifique, que je ne vous dirai pas l'autre. Fait que là, je regardais sur Internet, puis là, il disait qu'il manquait de calcium. Puis un gars sur Internet, il disait, tu as juste à lui mettre une tasse de lait 2% à toutes les semaines. Fait que j'ai commencé à mettre du lait 2% à mes tomates. Là, ma femme a dit, tu ne commenceras pas à donner du lait à tes tomates, là. Mais le pire, c'est que ça a marché. On a sauvé mes tomates. Puis ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à la parole de Dieu où il dit une promesse que Dieu avait faite à son peuple d'Israël, de leur donner un pays où coulerait le lait et le miel. Mais pas où coulerait, un pays où coule le lait et le miel. Parce que le Seigneur, ce n'est pas conditionnel avec lui. Aussitôt qu'il a décidé de prendre soin d'eux, c'est au présent où coule le lait et le miel, où les bénédictions se sont mises à couler pour son peuple. Et Dieu, il veut aussi pour nous un pays où coule le lait et le miel. Amen. Pour chacun de nous, Dieu veut un pays où coule le lait et le miel. Ce matin, je vais vous parler un petit peu du peuple d'Israël. Je vais vous parler un petit peu de la sortie d'Égypte, un petit peu de l'Israël qui est arrivé par la suite, un petit peu de l'Israël d'aujourd'hui. Puis en même temps, je vais vous parler d'un petit peu de ça, le lait et le miel. Pourquoi qu'on parle de ces choses? Pourquoi qu'on va dans l'Ancien Testament pour parler de choses souvent? Parce que la Bible nous dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen? Ça a été écrit pour nous. Le peuple d'Israël a souffert pendant 400 ans en esclavage en Égypte, mais Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu avait entendu, Dieu voyait et Dieu était en contrôle. Dieu avait un plan pour eux. Dieu avait une terre de bénédiction pour eux. Amen? Exode 3:8, ça dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays et dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. C'est tout des liens. Hein? Le Seigneur voulait les bénir abondamment dans ce pays-là. Il a fait des miracles extraordinaires pour eux. Mais dans ce pays-là, eux aussi auraient certaines actions à faire pour prendre possession du pays. Et c'est un peu comme nous quand on est arrivé au Seigneur. Dieu nous a délivrés souvent de choses extraordinaires dans nos vies, des choses qu'on n'aurait jamais pensé être délivrées. Mais il a laissé certaines choses des fois que Dieu veut nous laisser à notre responsabilité d'enlever dans nos vies. Amen. Et de lui faire confiance. Un autre verset qui dit dans Lévitique, « Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparé des peuples. » Le Seigneur, il voulait vraiment leur donner le pays. Il va leur dire plusieurs et plusieurs fois. Puis, quand Moïse va envoyer des espions pour aller voir le pays, ils vont voir que le pays était vraiment un pays où coule le lait et le miel. Dans Nombre 12, 13, 27, ça dit, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Les fruits, c'était des grappes de raisin qui étaient obligées de mettre sur un bâton puis porter avec deux hommes. Mes tomates ne sont pas rendues là. Donc, j'ai encore besoin de la bénédiction de Dieu. 21 fois, il y a 21 versets qui parlent d'un pays où coule le lait et le miel que Dieu veut leur donner à son peuple. Un pays d'abondance exceptionnelle, de grande fertilité et de richesse, mais un pays aussi, une terre de bénédiction spirituelle, parce que Dieu voulait marcher avec eux et leur donner une abondance de sa présence aussi. C'est ça la terre promise. C'est ça que Dieu voulait leur donner. Puis plus spécifiquement, on va la regarder un petit peu, le lait. Qu'est-ce que ça veut dire, le lait, dans la parole de Dieu? Le lait, normalement, c'est une nourriture de base pour enfants. C'est une nourriture qui donne la vie. Puis je me souviens, quand on était jeunes, nous autres, on était des cultivateurs. Puis pour les cultivateurs, on était des producteurs de lait. Puis des producteurs de lait, on avait un coton de lait, un quota de lait. Tu sais, qu'on fallait acheter un quota de lait pour produire du lait. Puis il fallait avoir les vaches pour avoir le quota de lait. Mais si nos vaches ne donnaient pas assez de lait, on avait moins d'argent. Puis si nos vaches donnaient plus de lait, bien là, on avait assez d'argent pour vivre. Mais pour nous, le lait, c'était la vie. C'était la vie. Et pour le peuple d'Israël, le lait, pour un peuple qui était nomade, qui avait beaucoup de troupeaux, le lait, c'était la vie. Ça représentait la vie. Ça représentait ce qui les faisait vivre. Puis spirituellement aussi, le lait, ça représente la parole de Dieu. Ça représente Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 2 et 3, ça le dit. « Et comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, désirez. » Désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. On a besoin du lait de la parole. Du lait de la parole, parce que ça représente Jésus-Christ. Désirez une nourriture spirituelle. Est-ce que, même si ça fait des années qu'on est au Seigneur, est-ce qu'on désire encore ardemment la nourriture spirituelle? Parce que c'est la vie. Parce que c'est la vie pour notre âme. C'est la vie pour chacun de nous. Le miel, qui est doux et précieux, ça symbolise la richesse naturelle de la terre. Mais aussi le miel, c'est doux et réconfortant. N'est-ce pas ce que Dieu voulait pour le peuple d'Israël lorsqu'il voulait les faire entrer en terre promise? Les réconforter, leur donner du repos. Après 400 ans d'esclavage, je pense qu'il avait besoin d'être réconforté. Je pense qu'il avait besoin du repos. Nous aussi, on a connu celui qui était doux et humble de cœur. Amen. Matthieu 11, 19, ça dit, « Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Amen. Quand on est arrivé au Seigneur, nous aussi, on avait besoin d'un endroit qui était doux et réconfortant. Un endroit accueillant. Un endroit qui était réconfortant pour notre cœur. N'est-ce pas que le lait et le miel, c'est une belle description de l'Église? Une place où on reçoit la vie spirituelle en abondance. Amen. Où on reçoit la douceur de l'accueil, le miel du réconfort qu'on reçoit. Est-ce que c'est une belle description de la maison de Dieu? Amen. Est-ce qu'on ressent la douceur de l'accueil lorsqu'on arrive dans ce lieu? J'espère, frères et sœurs, qu'on est capable de s'amener cette douceur, cet accueil, ce réconfort. L'Église est là aussi pour amener une vie spirituelle centrée sur Jésus-Christ, centrée sur la parole de Dieu. Et nous aussi, la Bible nous dit, dans Philippiens 4, 5, que votre douceur Nous aussi, on doit la transmettre, cette douceur-là. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que notre douceur est connue de tous les hommes? Je pense qu'on a de l'ouvrage à faire encore. Hein? On a de l'ouvrage à faire encore. Nous aussi, on était dans l'Égypte de ce monde. Puis Dieu nous a délivrés. Dieu voulait nous emmener dans une terre de bénédiction. Une terre de bénédiction spirituelle aussi. Éphésiens 1:3, ça nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Amen. Quel beau verset de Éphésiens. Puis là, il va continuer, il va dire, « En lui, nous avons été régénérés. En lui, nous avons été sanctifiés. En lui, nous avons reçu l'héritage. En lui, nous avons la promesse. » Amen. Quel beau passage de Éphésiens, le premier chapitre, c'est extraordinaire. On a été bénis, on a été lavés, délivrés, restaurés. C'est ça que Dieu voulait pour nous. C'est ça que Dieu voulait pour le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Il voulait les amener dans une terre promise. Tantôt, je reviens à Israël. Puis, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte, imaginons-nous les miracles. Les miracles, les plaies d'Égypte, ils ont sorti de là par miracle, par-dessus miracle. Ils ont passé la mer Rouge à sec, miracle par-dessus miracle, la nuit qui les suivait, la nuit qui les précédait. Puis tout d'un coup, paf! Un désert. Un désert. Normalement, sortir d'Égypte puis se rendre à pied jusqu'à la terre promise, ça aurait dû prendre entre 10 et 15 jours. Mais ça leur a pris 40 ans. Ça leur a pris 40 ans. Ça me fait penser que quand je suis en auto avec ma femme, des fois, je prends des raccourcis qui est pas mal plat du tout et puis tes fameux raccourcis. Hein, j'ai dit des fois, on va prendre par là, ça va être plus court. Mais finalement, des fois, je fais 15, 20, 30 kilomètres. Puis... ouais, de tes fameux raccourcis. Mais c'est ça qu'ils ont fait, eux autres. 10 à 15 jours, ça leur a pris 40 ans. 40 ans. Pourquoi ça leur a pris 40 ans? Puis c'est pareil aussi pour que des fois, j'ai vu des gens arriver dans l'église, puis des fois, on leur dit, viens à l'église, Dieu va t'aider, Dieu va te délivrer de tes problèmes, Dieu va te délivrer de tes difficultés. Puis c'est vrai. Là, ils arrivent à l'église, Dieu les délivre, Dieu fait ça, miracle par-dessus miracle, par-dessus miracle, par-dessus miracle. Puis tout d'un coup, paf, un désert. Mais le désert, il sert à quelque chose. Puis j'ai vu des gens que lorsque le désert est arrivé, puis parce qu'on ne leur a pas dit que des fois, ça peut arriver qu'il y ait un désert, ils sont retournés. Puis ils ont dit, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Mais ici, le désert avait une fonction. Moïse, qui dirigeait le peuple, qui était un homme qui comprenait beaucoup les détours, parce que lui aussi a fait beaucoup de détours, Moïse. Hein? Il a été élevé pendant 40 ans chez Pharaon pour apprendre comment être roi. Puis tout d'un coup, il s'est retrouvé 40 ans dans le désert pour désapprendre ce qu'il avait appris dans les premières 40 années. Puis pour apprendre à devenir un berger de moutons afin de diriger un troupeau de brebis humaines. Puis il va les avoir dirigés pendant 40 ans dans le désert, Moïse. C'est pas pour rien que la Bible elle nous dit « Moïse était le plus patient de tous les hommes. » Le plus patient de tous les hommes. Puis vers la fin de sa vie, Moïse a écrit quelque chose, un petit peu un résumé des 40 ans de désert que le peuple a subi. Dans Deutéronome, le chapitre 8, ça dit, « Souvenez-vous, » fait que là, il dit au peuple d'Israël, « Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur, votre Dieu, vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin que vous découvriez ce que vous aviez au fond de votre cœur. Les épreuves qu'ils ont eues, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il y avait au fond de leur cœur. Est-ce qu'ils aimaient vraiment le Seigneur? Ou est-ce que c'était juste les bénédictions qu'ils voulaient recevoir? Qu'est-ce qu'il y avait au fond de leur cœur? Qu'est-ce qu'il y avait? Et de savoir si oui ou non, vous vouliez observer ses commandements. Après ça, il va dire, après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de la faim, je vous ai donné de la manne. La manne, en passant, c'est un petit gâteau fait de coriandre, puis ça avait un goût de miel. Hein, on parle de lait et le miel, aujourd'hui c'est bon de savoir, la manne, ça avait un goût de miel. Une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Ce verset-là, c'est un verset du Nouveau Testament. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Jésus lui-même qui a prononcé ça lorsque Satan l'a tenté dans Matthieu 4:4. Il a dit à Satan, « Retire-toi de moi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Vos vêtements ne se sont point usés, vos pieds n'ont pas enflé durant ces 40 années. C'est merveilleux, hein? Dieu prenait... Même si eux étaient infidèles, Dieu restait fidèle. Comprenez donc bien que le Seigneur Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. L'enseignement, c'est que Dieu voulait leur enseigner des choses. Dieu voulait leur enseigner des choses sur eux-mêmes, sur à savoir où ils étaient rendus dans leur vie. C'est des choses qu'ils devraient délaisser, qu'ils devraient maturer, qu'ils devraient grandir. Observez les commandements du Seigneur votre Dieu, conduisez-vous comme il le désire et respectez-le. Le Seigneur Dieu va vous faire entrer dans un bon pays, arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où pousse le blé et l'orge, la vigne, le figuier, le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Tout un pays que Dieu voulait leur donner. Hein? Tout un pays. Le pain ne vous y sera pas rationné et vous ne manquerez de rien. De ces roches, on peut extraire du fer et de ces montagnes de cuivre. Vous y aurez de quoi vous nourrir abondamment et vous remercierez le Seigneur votre Dieu de vous avoir donné ce bon pays. Amen. C'est vraiment tout un résumé. Quelle description! Tout un résumé de ce qu'ils ont passé dans le désert. Dieu voulait prendre soin d'eux, mais Dieu voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur, à savoir s'il l'aimait pour lui-même ou s'il l'aimait juste pour les bénédictions que Dieu leur apportait. Pour découvrir ce que tu avais au fond de ton cœur. Il manquait de rien. Il avait faim, il y avait de la manne. Il avait soif, il y avait de l'eau du rocher. Il était tanné de la manne, il y avait des cailles. C'est tout des miracles. Mais ils devaient changer. C'est ça que Dieu leur demandait. Il leur demandait de changer. Parce qu'ils étaient plaignards. Ils étaient immatures. Ils étaient inconstants. Ils étaient toujours en train de se plaindre. Pas encore de la manne. On est tanné des cailles. On veut d'autres choses. Ça fait penser à notre société d'aujourd'hui. Ça se plaint tout le temps. Ça se plaint tout le temps. Dieu voulait leur apprendre à faire confiance à Dieu. Pour Dieu, c'était facile de les faire sortir d'Égypte avec bien des miracles. Mais pour Dieu, c'était plus difficile de faire sortir l'Égypte de eux que de les faire sortir eux de l'Égypte. Hein? J'ai un de mes amis lui, c'est un Gaspésien. Michel, je vous en parle souvent. Lui, c'est un Gaspésien. Lui, il dit, moi, je suis une morue. Fait que moi, j'y ai dit, quand tu as connu le Seigneur, tu as mouru à toi-même. Mais lui, il me dit tout le temps, il dit, Michel, c'est facile de faire sortir un Gaspésien de la Gaspésie, mais faire sortir la Gaspésie du Gaspésien, c'est dur. Puis il me dit ça souvent. Puis c'est vrai. Ici, c'était facile pour Dieu de les faire sortir du pays d'Égypte, mais faire sortir l'Égypte des Israélites, ça, c'était dur. Puis c'est pareil pour nous. On arrive au Seigneur, puis on arrive dans un lieu où que Dieu veut nous bénir. Mais des fois, on a des années où on a vécu dans cette Égypte de ce monde. C'est facile de nous sauver, de nous laver, parce qu'il est Dieu. Mais aussi, il veut que l'Égypte de notre cœur sorte. Ça, c'est plus difficile. Parce qu'il laisse ça à notre discrétion. Il veut qu'on le fasse de nous-mêmes. Volontairement. Parce qu'on l'aime. Puis ça, c'est plus difficile. Le désert était utilisé par Dieu pour un temps de croissance et de maturation. Un temps où ils devaient cesser de regarder aux choses visibles et mettre leurs yeux sur le Dieu de l'invisible. Amen? Et nous aussi, quand on arrive au Seigneur, des fois, Dieu veut nous arrêter qu'on regarde aux choses visibles, aux choses qu'il nous donne, et qu'on regarde au Dieu de l'invisible, au Dieu qui peut faire toutes choses. Les déserts. Les déserts. Le désert devait servir à cela. Mais Dieu voulait leur donner un pays où coulait le lait et le miel. Mais ceux qui sont entrés dans le désert, les Israélites, ils sont quasiment tous restés dans le désert. Parce qu'ils ont pratiquement rejeté le Seigneur à travers leurs actions, à travers ce qui est arrivé. Mais est-ce que Dieu avait fini avec le peuple d'Israël? C'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Je vais continuer un petit peu sur Israël. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Puis Dieu y avait promis qu'il s'occuperait d'eux. Dieu avait promis. Fait que Dieu, quand ils n'ont pas rentré dans le désert, ils sont morts dans le désert. Mais le peuple d'Israël, ils ont été... À chaque fois que le peuple d'Israël revenait au Seigneur, Dieu les bénissait. À chaque fois qu'ils s'éloignaient du Seigneur, ils tombaient dans toutes sortes de pétrins. Dans toutes sortes de pétrins. Puis ça a été de même une partie de leurs existences. À chaque fois qu'ils revenaient au Seigneur, Dieu les bénissait. À chaque fois qu'ils s'éloignaient, Dieu les livrait à toutes sortes de choses. Je pense souvent à l'entrée en Canaan sous Josué. Comment Dieu les a délivrés? Comment Dieu a fait des miracles? Comment Dieu a fait toutes sortes de choses? Plusieurs petits mini-réveils sous Néhémie, sous Esdras, sous Zorobabel, le premier retour. Sous Néhémie, c'est extraordinaire les réveils qu'il s'est passé en Israël. Mais Dieu les a dispersés dans les nations parce que le peuple d'Israël, il ne voulait pas suivre. Il ne voulait pas suivre. Puis ils ont été dispersés à travers les nations pratiquement sur une période de 2000 ans. Qu'arrive-t-il aujourd'hui au peuple d'Israël après 2000 ans? On dirait qu'aujourd'hui, le processus inverse est en train de se produire. Après qu'il a été comme dispersé parmi les nations, tout d'un coup, il y a comme un retour. Parce que Dieu l'a promis. Il y a comme un retour. J'ai lu une phrase de... Un écrivain qui s'appelle Mark Twain, il a visité le peuple d'Israël, il a visité Israël en 1867. Puis regardez ce qu'il a écrit. Oh! Il a sauté celui-là. Il dit, c'est un pays désolé, dont le sol est assez riche, mais qui est entièrement laissé aux mauvaises herbes. Une étendue silencieuse et mélancolique. Il y a ici une désolation que même l'imagination ne peut embellir, avec le faste de la vie et de l'action. Il dit, nous n'avons jamais vu un être humain sur tout le parcours. Il y avait à peine un arbre ou un buisson n'importe où, et même l'olivier et le captif, ses fidèles compagnons du sol stérile, avaient presque abandonné le pays. Un désert. C'était presque un désert. Mais Dieu leur a promis un retour. Dieu leur a promis un pays où coulerait le lait et le miel. Amen. Et Dieu va l'accomplir. Déjà, en 1905, déjà, il y avait peut-être à peine 50 000 personnes dans le peuple d'Israël. Le retour a commencé. Ils sont redevenus un pays en 1948. Ils ont eu des miracles, des victoires miraculeuses comme la guerre de séjour et toutes ces choses. Et Israël est en train de refleurir le désert. Littéralement. Ésaïe 41, 18, ça dit, Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Aujourd'hui, le lait et le miel reviennent en Israël. J'étais en train de lire un article, ça disait « Le désert en Israël est en train de refleurir ». Dans le Néguiev, c'est un désert, pratiquement un désert. Puis au printemps, il y a des ruisseaux qui débordent sur la terre, puis ça amène des graines de fleurs, puis ça se répand sur la terre, puis ça fait que le désert devient tout comme un jardin. Un jardin d'anémones, de fleurs de toutes sortes de couleurs. Puis là, ils ont des festivals, ils appellent ça les festivals de zone rouge. Le désert qui refleurit totalement sur une période de plusieurs mois. Sur une période de plusieurs mois. Israël, aujourd'hui, c'est le troisième pays exportateur de fleurs au monde. C'est quelque chose. Puis le miel, on a parlé du miel tantôt. Israël, c'est un acteur de pointe en agriculture et en apiculture. Puis ils ont même fait un thème en 1983. Tu vois, on voit une abeille. Puis on voit en bas, c'est le verset d'Exode 3:8. Un pays où coule le lait et le miel. Amen, c'est merveilleux. C'est en train de revenir en Israël. Un pays où coule le lait et le miel. Ils ont des dizaines de milliers de ruches, puis des milliers d'abeilles différentes. Puis eux autres, le nouvel an juif, qui va arriver bientôt en septembre, leur menu, c'est des pommes trempées dans le miel. Hein? Puis en prévision de ça, ils font 4400 tonnes de miel. Fait que c'est du miel en bébite, là. Hein? Ça fait que, ouais. Fait que c'est important, des fois, de regarder ce qui se passe en Israël, parce qu'Israël, c'est l'horloge du monde face au retour de Jésus-Christ. Amen. C'est important pour nous de regarder ça, de regarder les choses qui s'y font. Et Dieu a dit qu'il amènerait, avant le retour de Jésus-Christ, son peuple reviendrait dans son pays d'Israël. Et c'est ça qu'on est en train de voir arriver. Le lait et le miel. C'est important de voir ça. Aujourd'hui, quand je regardais ce qui se passe en Israël, puis de voir ce que le Seigneur est fidèle avec Israël pour accomplir ses promesses envers eux sur des milliers d'années, ça m'encourage dans ma vie. Quand j'ai des périodes de désert, quand j'ai des périodes où ça ne va pas si bien que ça, ça m'encourage de dire, si Dieu, sur plusieurs milliers d'années, est capable d'accomplir ses promesses, il est capable de le faire sur ma vie de 70, 75 ans. Amen. Il y a quelques années, je vous l'ai dit quand j'ai prêché la première fois, il y a 4-5 ans, j'allais à l'église dans une rencontre maison. Puis, tout ce que je faisais, c'est que j'y allais juste là pour écouter, puis pour être bien en présence de Dieu. Je ne disais rien, il ne me demandait rien. C'était juste pour être là, afin d'être restauré. Puis Dieu, aujourd'hui, je vis une période où coule le lait et le miel. Et j'en remercie le Seigneur, c'est à sa gloire et à son honneur. Parce que c'est ce que Dieu veut faire en chacun de nous, frères et sœurs. On peut avoir des périodes de désert, on peut avoir des périodes où c'est plus difficile, mais Dieu veut pour nous un temps où coule le lait et le miel. Amen. Le lait qui représente une vie spirituelle riche. Le miel qui représente la douceur, qui représente une attitude spirituelle. Une attitude spirituelle riche. Amen. Une attitude d'humilité, une attitude humble. Dieu avait promis au peuple d'Israël un pays où coulerait le lait et le miel. Pour la plupart, ils n'y sont pas rentrés parce qu'ils étaient désobéissants. Mais aujourd'hui, on voit que Dieu est en train d'accomplir cette promesse. Et j'espère que chacun de vous, j'espère que vous vivez aujourd'hui une saison où le lait et le miel. Une vie spirituelle abondante. Une attitude spirituelle. La douceur de Dieu sur vos vies. Mais souvent, les déserts nous empêchent de goûter ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et aujourd'hui, Si vous avez un si vous êtes en train de traverser un désert, les déserts, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être des séparations, ça peut être la maladie, ça peut être les difficultés financières, ça peut être les enfants, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être nous-mêmes aussi qui, des fois, dans des dépressions, de travail, de toutes sortes de choses qui nous empêchent de goûter ce que Dieu a pour nous. Il faut faire ce que Moïse a dit au peuple d'Israël. Il faut se tourner vers, regarder en dedans de nos cœurs et regarder ce que le Seigneur veut faire. Il veut qu'on se confie à lui. Il veut qu'on lui donne notre fardeau. Il veut qu'on devienne plus mature. Il veut qu'on devienne plus constant. Il veut nous amener à lui à travers ces difficultés-là. Les difficultés ne sont pas là, les déserts ne sont pas là pour qu'on meure dedans comme le peuple d'Israël, mais pour qu'on avance vers le Seigneur. C'est lui qui va nous donner un pays où coule le lait et le miel. Et lorsqu'il dit un pays où coule le lait et le miel, avez-vous remarqué que c'est au présent? C'est pas au futur. Viens vers moi puis je te donnerai. Ça, c'est dans notre génération d'aujourd'hui où on nous promet et on nous donne jamais. Mais Dieu, lorsqu'il commence à prendre soin de nous, c'est au présent. Un pays où coule au présent, au présent, au présent. Aussitôt que Dieu veut nous prendre en charge, il commence à nous bénir. Drette là, drette là. Amen. Amen. Je vais demander aux musiciens de s'avancer ce matin. Puis ce matin, j'espère que chacun de vous, vous vivez une saison où coule le lait et le miel. Mais ce matin, si vous êtes dans des déserts ce matin, et que le lait et le miel ne coulent pas dans votre vie, bien ce matin, je vous invite à vous avancer, puis à vous confier en Dieu. À vous confier en Dieu. Ne pas vous éloigner, ne pas rester seul, mais de vous avancer vers lui, afin que Dieu fasse une œuvre. Amen. C'est ça que Dieu voulait pour le peuple d'Israël dans le désert. Il voulait que Dieu lui fasse confiance, qu'il marche avec lui. Et Dieu veut qu'on marche avec lui. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Et Dieu veut bénir encore aujourd'hui. Et il veut nous donner une vie où coule le lait et le miel. Amen. Soyez bénis.